Chers auditeurs, bonjour. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis toujours derrière le petit micro rouge de nos studios du Rocas. Et je reçois aujourd'hui Alain Fillon, qui est maire de Luret et vice-président de l'agglomération en ce qui concerne l'eau et l'assainissement. Mais ça, nous le verrons dans une prochaine émission. Alors d'abord, bonjour Alain.
Bonjour Marie-France.
Je suis ravie de te retrouver dans nos murs, c'est très agréable.
Plaisir partagé, dès l'instant où je viens à Radio Grand Ciel, tout va bien. Le soleil brille cet après-midi.
C'est très agréable aussi, c'est vrai. Donc, cette première émission, nous allons la faire autour de Luret, de ta ville, de ta commune, de ton village. Tu l'appelles comment, au fait, Luret ?
Mon village.
Ton village.
Mon village, j'y suis né, j'y ai grandi. Ma famille a beaucoup d'histoires depuis quelques générations, donc j'y suis très attaché. C'est peut-être pour cela que, quelque part, j'en suis devenu le maire. Je ne pense pas que ce soit un hasard, même si je n'en rêvais pas tous les matins en me rasant.
Donc, c'est ce village au clocher, aux maisons sages, et ça te plaît toujours autant?
Toujours la même passion de faire, de découvrir, d'échanger avec les habitants de Luret, même si la population de Luret en près de 35 ans a beaucoup changé.
1500 habitants à peu près ?
Un peu plus, 1600 au dernier recensement.
Le temps passe.
Oui.
Et c'est un recensement qui est fait tous les 2 ans, tous les 3 ans ?
Alors nous, il est fait de manière un petit peu plus espacée. Nous le faisons tous les 5 ans. Mais chaque année, c'est l'INSEE qui remet à jour, alors à partir d'un certain nombre de paramètres qui aujourd'hui, d'ailleurs, sont contestés par plusieurs maires, même des maires de grandes villes, tout simplement parce que nous avons, nous aussi, des indicateurs de notre côté qui montrent une augmentation de population et parfois l'INSEE qui ne fait simplement que ratio entre nombre de décès et nombre de naissances, mais qui ne prend pas en compte d'autres paramètres importants.
Oui, bien sûr, il y a des gens qui arrivent comme ça et qui non seulement passent toute leur vie à Luret, mais viennent aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, peut-être qu'ils restent un certain nombre d'années puis s'en vont.
Oui, sur Luret, on peut dire qu'on a aussi quand même une certaine fidélité. Je pense en particulier à tout ce qui est l'habitat en locatif. On pourrait penser que dans le cadre du parcours normal, à savoir on est locataire pendant quelques années de sa vie pour pouvoir à un moment donné accéder à la propriété, mais il s'avère que depuis un certain nombre d'années, nous avons mis en place un type de location sur Luret, qui est le locatif social, si je puis m'exprimer ainsi. Moi, je dis le locatif public parce que j'ai toujours l'impression que dès l'instant où on est locataire social, il y a un petit peu quelque chose de péjoratif. Non, la preuve, c'est que nous avons un turnover qui est très très faible sur nos 25 logements locatifs publics parce que les gens, rapport qualité-prix, n'ont pas envie du tout de changer. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, ça enlève quand même néanmoins la possibilité ou le goût, l'envie de pouvoir accéder à la propriété.
Ça, l'avers et le revers de la médaille, c'est sûr. Mais il y a quelque temps, tu étais venu déjà ici et tu m'avais parlé d'un type de locatif un peu particulier qui était de l'horizontal.
Oui.
C'est toujours le cas ?
C'est toujours le cas à Luret. Moi, je suis devenu maire de Luret tout simplement sur un dossier important qui était mon prédécesseur qui avait souhaité faire du logement public, social, en vertical et puis aussi en dehors du qualitatif. Un nombre trop important de logements, on parlait à l'époque de 120 logements. Mais je ne suis pas opposé du tout à ce type de locatif dès l'instant où les locataires peuvent trouver à la campagne aussi le plaisir de pouvoir habiter, de pouvoir vivre dans des conditions au moins égales à celles de ceux qui sont devenus propriétaires.
Mais ça peut être aussi supérieur parce qu'en plus, la campagne, tu es à la campagne avec ce village.
pseudo-campagne Marie-France. On dit aujourd'hui que nous sommes des rurbains pour faire ce...
Des quoi ?
Des rurbains. Oh, c'est tout simplement une contraction de rural et d'urbain. C'est un terme qui est reconnu.
Oui.
Mais il est vrai que Luray n'est pas la même campagne si nous allons à Maillebois ou dans des
bien
villages
sûr,
beaucoup plus retirés.
Bien sûr. Mais quand même, pour faire la petite promenade digestive, après un café, on n'a pas loin à aller pour se retrouver dans les champs. Hein.
Oui, et puis ce qui fait aujourd'hui l'attrait de Luray, c'est que nous sommes à deux encablures des deux grandes villes, en fait, que sont Dreux, d'une part, et Vernouillet, avec des centres commerciaux qui ne sont pas éloignés et qui permettent aux habitants, surtout lorsque ces habitants vieillissent un petit peu, de pouvoir plus facilement pallier à un certain nombre de difficultés, serait-ce tout ce qui est santé, tout ce qui est approvisionnement, etc.
Très bien. Et c'est un village qui vit.
Un village qui vit, il vit d'abord parce que je pense que nous essayons de promouvoir un certain nombre d'activités, mais aussi parce que nous avons une richesse associative qui est reconnue et qui aujourd'hui est importante, qui même dans certains cas arrive parfois à nous poser quelques difficultés en ce qui concerne la mise à disposition de tout ce qui est bâtiments communaux, etc.
Il y a l'église Saint-Rémy. Surtout pour les concerts.
Pour les concerts, le côté culturel, par rapport au côté cultuel, qui était quand même la première raison de cette chapelle. Mais aujourd'hui, il s'avère que, il y a 35 ans, entre des hommes et des femmes de bonne volonté, nous avons trouvé, entre l'évêché et la municipalité, la bonne formule pour que chacun s'y retrouve, à la fois les paroissiens de Luray. C'est vrai qu'une messe annuelle, ce n'est pas beaucoup, mais les habitants de Luray, les paroissiens ont pris leurs habitudes par rapport à Dreux, par rapport à d'autres paroisses sur le Drouet, et puis aussi la partie culturelle. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'utilisation de notre chapelle, c'est aussi une importance au niveau culturel. On y reviendra tout à l'heure peut-être en ce qui concerne d'autres bâtiments que nous avons projeté d'édifier.
Et donc, il y a une messe par mois, une messe par an ?
Non, c'est une messe annuelle. Le jour de la fête patronale, qui est le jour de notre Saint-Clair, et qui a lieu toujours le deuxième week-end de septembre.
Avec la cavalcade.
Avec la cavalcade, je vois que tu es très bien renseigné, cette cavalcade qui maintenant existe depuis de nombreuses décennies et qui fait de cette fête Saint-Clair, une certaine originalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, les défilés de chars, on peut y voir une connotation un petit peu ancienne, mais qui apporte le contentement d'un certain nombre de familles, et pas uniquement de familles luraisiennes, bien évidemment, mais de familles de l'agglomération.
Et ça consiste en quoi, cette cavalcade ?
C'est tout simplement des chars fleuris qui sont constitués par les habitants, qui d'ailleurs ont déjà commencé à se rencontrer, à préparer, à dessiner, à confectionner.
Il y a des thèmes peut-être, comme le carnaval de Nice.
Il y a des thèmes, je suis navré, c'est pas aujourd'hui que je dévoilerai le thème.
Sûrement pas.
Surtout pas, il faut garder la surprise, je dévoilerai pas le thème pour l'année 2017. En tout cas, il y a un engouement, et puis aussi c'est un prétexte pour qu'une vingtaine, une trentaine de personnes du mois de mars jusqu'à la fin août se retrouvent chaque après-midi pour confectionner, pour échanger.
Tous les après-midi ?
Oh oui, carrément.
Il y a du boulot, dis-moi.
C'est énorme puisqu'il est posé plusieurs dizaines de milliers de fleurs papier.
Ouh là là, puis il y a une recherche,
il y a de la confection de fleurs, et puis ensuite il faut les assembler,
et les costumes des gens qui sont sur les chars.
Aussi.
Et puis alors au mois de mai, c'est le salon de la photo.
Au mois de mai, salon de la photo, mais c'est aussi, là aussi, notre fidélité au salon national photographique de Vernouillet. Nous sommes dans le salon off et non pas dans le in, mais néanmoins, cela signifie tout simplement que le salon de Vernouillet s'expatrie dans les communes aux alentours et donc dans les communes rurales. Dès la première année, nous avons souhaité participer. C'est aussi l'occasion de découvrir un certain nombre d'artistes, de permettre aussi à des habitants, je parle en ce qui concerne les Luraisiennes et les Luraisiens, de pouvoir se déplacer pour un événement artistique personne qui ne se déplacerait pas peut-être si on ne venait pas chez elles. à leur
oui,
porte.
Oui, bien sûr. Mais alors, qui peut participer? Qui expose? Ce sont les œuvres de qui? Ça peut être un tout un chacun
Tout à fait. Alors, c'est Vernouillet, c'est la ville de Vernouillet, et aussi avec, on va dire, un comité restreint, qui choisit, qui sélectionne les candidatures, qui retient un certain nombre de candidatures, avec donc des photographes locaux, comme des photographes aussi qui sont de la région ou beaucoup plus loin, même au niveau national, et qui viennent exposer leur passion dans chacune de nos communes. D'ailleurs, il n'y a pas que dans les communes. Il y a un certain nombre d'autres endroits publics accueillent ce salon œuvre. Je pense sur la ville, à des restaurants, je pense à des maisons de retraite, je pense enfin à un certain nombre de lieux où le public est présent.
C'est très bien ça, c'est
tout
sûr.
Tout à fait. C'est très bien en ce qui concerne la découverte.
Mm-hmm. Alors évidemment, il y a aussi tout ce qui est théâtre, variété. Mais je constate que effectivement, les participants sont fidèles. Il y a quelques années, même assez anciennes, j'avais écouté les troubadours modernes et je vois qu'ils sont toujours à Luret.
Alors les troubadours modernes, effectivement, sont toujours à Luret. Je crois qu'il y a dû, y avoir un petit hiatus sur 2 ans, je crois. Mais là, c'était pour des questions d'organisation chez eux. Mais en tout cas, nous les accueillons chaque année. Par contre, dans ce bel horizon positif du culturel, une touche un peu plus négative, j'ai appris il y a quelque temps que le concert blues qui avait
j'allais
lieu...
J'allais venir qui, au blues.
Eh oui,
tu
le
sais
concert
à quel
blues,
point le jazz et le blues sont voilà, chers à mon cœur. Mais là, ça ne se fait pas.
Voilà, qui était mis en place depuis de très très nombreuses années. Je voudrais en profiter pour saluer les organisateurs, et en particulier son président, Bernard Brunner, qui cette année ne pourront pas organiser le concert blues, tout simplement parce que cela fait 2 ans que la participation, la présence du public n'est pas suffisante pour assurer la pérennité de cette manifestation.
Chers auditeurs, il faut absolument vous mobiliser pour le jazz, pour le blues. Je vous en prie, faites un effort. Mais ça recoupe effectivement ce que j'ai entendu au début de l'année. J'ai rencontré Vincent Cordelette, un batteur extrêmement renommé qui vient de reprendre la direction de l'orchestre de Claude Bolling et qui me disait qu'il y avait de moins en moins de concerts, effectivement, de jazz.
Oui, voilà.
Enfin... C'est une musique qui disparaît.
Oui, c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, toutes les expressions dans les différents domaines, que ce soit celui de la musique, toutes les expressions, toutes les qualités différentes de musique ont droit de citer, mais derrière, malheureusement...
Mais le public vieillit aussi,
oui,
tout ce
alors,
qui aimait
il,
le
non,
jazz.
Mais Marie-France, il y a cela aussi, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération, mais néanmoins, il y a toujours cette histoire du nerf de la guerre. Alors, nous essayons, tant que l'on peut, en ce qui concerne notre municipalité, pour pouvoir aider, même s'il faut participer, mais dans des moments où aussi pour les collectivités, c'est assez compliqué pour arriver à équilibrer nos budgets.
Mm-hmm. Nous allons y venir.
Voilà, donc je crois que c'est un peu compliqué. On ne peut pas accompagner indéfiniment.
Bien sûr. Et puis, il y a la troupe de l'homme en noir, qui n'est pas Ardisson.
Non, mais en tout cas, cette troupe de l'homme en noir, là aussi, fidélité. Voilà maintenant de très nombreuses années que cette équipe.
Tu comptes même plus, on parle en décennies.
Non, parce que ma mémoire me fait défaut. Quand je dis elle me fait défaut, si je dis 20 ans, je suis pas certain que ce soit pas 19 ou 21. Mais en tout cas, pour ce qui est de la troupe de l'homme en noir, c'est certainement au moins 2 décennies qu'ils viennent régulièrement une fois à Luret pour présenter leur pièce annuelle, qui d'ailleurs, c'est souvent Luret qui termine la saison. Nous terminons la saison, ce qui n'est pas forcément désagréable parce qu'on a une troupe très rodée.
Ils sont très au point à ce moment-là. Hein.
Oui, c'est très sympathique. Et puis moi, je salue cette initiative, cette bande d'amis qui il y a 20 ans étaient des parents d'élèves de l'école primaire du regroupement de Mézières et qui, dans le cadre de leurs activités, ont dit voilà, on va faire du théâtre. Alors à quelques-uns, ils ont monté une pièce, et puis tout s'est pérennisé, tout a pris de l'ampleur et aujourd'hui, ce sont évidemment plus des parents d'élèves de l'école primaire, même s'ils ont recruté. Mais en tout cas, ils existent toujours. Leur prestation existe. Elle est toujours d'aussi bonne qualité.
Et qui choisit les pièces? C'est une pièce par an?
C'est une pièce par an et ils choisissent. Alors là, je ne suis pas au fait de leur... de leur choix, de leur manière de choisir. Mais là aussi, à l'intérieur de la troupe, il y a un noyau dur encore d'une dizaine de personnes qui étaient les parents d'élèves il y a une vingtaine d'années.
Oh, c'est sympathique.
Très sympathique.
Bien sûr. Et de l'école Jules Ferry.
Ce ne sont pas des parents d'élèves de notre école, ce sont des parents d'élèves du regroupement pédagogique proche de chez nous, qui est le regroupement de Mézières, de Écluzel, de Charpon, et qui viennent se produire dans notre commune, comme d'ailleurs dans d'autres communes. Mais ce ne sont pas des parents d'élèves de la commune de Luré.
Et puis, il y a la country. Est-ce que tu danses le country?
Non, parce que je suis pas un grand danseur, mais par contre j'aime bien cette musique country.
Ah oui.
J'aime bien la musique country et je suis pas venu pour parler de moi à titre personnel
après-midi.
Mais je suis allé il y a 2 ans en Irlande et je vous dirais que une des raisons qui m'ont fait aller en Irlande, en dehors de cette beauté a priori des paysages et qui a été confirmée, ça a été aussi de retrouver une musique. Alors la musique irlandaise n'est pas tout à fait la musique country, mais en tout cas j'y trouve
beaucoup. Ça y ressemble.
Ça y ressemble beaucoup, il y a des origines, mais c'est une musique que j'aime bien entendre.
En Irlande, il y a tout le charme du taxi mauve, évidemment.
Voilà, et j'aime bien aussi voir danser tous ces amis. Pour la country, ce sont des Luraisiennes et Luraisiens.
Zij krijgt alle cowboys plat in het hele wilde westen. Niemand die het van haar wil, want zij danst hier als de beste. Hilly Billy Country staan. Hilly Billy Country Lily, dans met ons de country storm. Hilly Billy Country Lily, dans de Hilly Billy Country storm. Zakken ergens achter in de kroeg, maar ze had hem gouden pakken. Dans met mij tot morgen vroeg. Nee, hij durft het niet te wagen. Zei dat hij niet dansen kon. Maar vannacht danst hij met Lily. Hilly Billy Country Stam. Hilly Billy Country Lily, dans met ons de Country Stam. Hilly Billy Country Lily, dans de Hilly Billy Country. Hilly Billy Country Lily, dans met ons de country storm. Hilly Billy Country Lily, dans de Hilly Billy Country storm.
Alors, dans l'église Saint-Rémy, évidemment, je suppose qu'il y a surtout des concerts classiques. Il y a des groupes qui viennent également, des pianistes, des...
Alors, c'est assez limité. On l'a fait un moment dans notre chapelle de différentes manières. Hein. Ou bien on avait une programmation personnelle, la commune organisait, accueillait des artistes. Ou alors on passait par le biais du département, puisque le département d'Eure-et-Loir a mis en place quelque chose de très intéressant, que l'on appelle les scènes auréliennes, et qui, à travers le théâtre, à travers la musique, met à disposition des groupes, des artistes, moyennant une participation très, très faible de la collectivité qui héberge, qui accueille.
Et c'est le conseil départemental qui paie la différence.
Et c'est le conseil départemental qui paie la différence, mais qui paie une grande partie de la prestation de l'artiste. C'est quelque chose au niveau culturel qui est vraiment très bien et qui permet de pouvoir décentraliser, si je puis dire, là aussi, un petit peu la culture vers le milieu rural.
Oui, parce qu'autrement, il y aurait presque un désert. C'est comme le désert médical.
C'est très
lourd pour un petit village d'organiser un concert.
Tout à fait. Et on s'aperçoit que autant des habitants ne feront pas le déplacement. Ça peut paraître étonnant. Il y a des personnes qui ne viennent pas à Dreux. Pourtant, il y a des activités culturelles dignes de ce nom, comme à Vernouillet, à travers l'atelier, spectacle, mais des gens qui ne font pas cette démarche. Alors peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment accrochés par l'effet culturel, mais en tout cas le fait de venir sur place, de se déplacer, je crois que c'est aussi très très positif.
Et puis aussi ils sont flattés de voir que quelque chose existe dans leur village. Je pense que c'est important, ça aussi,
oui,
pour la population.
Ça aussi c'est important, et puis ça participe à l'animation du village.
Très bien. Alors, et le salon des collectionneurs. C'est pareil, ce sont des particuliers qui présentent leur propre collection.
Oui, alors là aussi, et non seulement ce sont des particuliers qui présentent leur collection privée, mais ce sont des particuliers qui organisent ce salon des collectionneurs. Une municipalité.
Il se passe où le salon ?
Il est à la salle des fêtes de Luray, et il a lieu tous les 2 ans, et il va avoir lieu cette année.
Très bien, donc 2017, Salon des collectionneurs.
Voilà, qui va avoir lieu, je crois, premier week-end de novembre. Alors, l'initiative est intéressante parce qu'au fond, dans l'animation d'un village, il y a l'action des associations, il y a l'action de la municipalité, mais des structures, on va dire, organisées, structurées. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que des particuliers peuvent prendre l'initiative d'organiser à leur compte ce genre de manifestation. Le salon des collectionneurs, il est pur jus privé. Ce sont des particuliers, des passionnés. Dès l'instant où on pratique la collection, on est obligatoirement passionné, et qui donc ont mis en place ça aussi. Je crois qu'on a fêté il y a 2 ans les 20 ans du salon des collectionneurs, et qui ont donc monté cette opération, qui font les démarches pour essayer de trouver des collectionneurs. Avec comme principe qu'on ne présente pas 2 fois la même collection.
Et puis de toute façon, ça n'est pas à vendre, c'est juste à admirer.
Tout à fait, pour ne pas transformer ces rencontres, ces rendez-vous.
Pseudo-foire à la brocante.
Ouais. Et puis des affaires où on manipule de l'argent, etc. Il y a d'autres lieux qui sont réservés, j'ai rien contre, il y a d'autres lieux qui sont réservés à ça, mais là c'est le partage d'une passion.
Et alors, est-ce qu'il y a encore une feuille de Luray ? D'abord, elle venait de quel arbre, cette feuille ? Est-ce que tu t'en souviens ?
Alors, la feuille de Luray, elle existe. Elle existe, mais il en existe une qui n'est pas celle d'origine. La feuille de Luray, aujourd'hui, c'est tout simplement quasiment le nom de notre revue mensuelle.
Ah, bon. Et t'as pris ça sur un fromage.
Ouais, non, pas tout à fait. Mais ce à quoi tu fais allusion, c'est la feuille de Luray, c'est-à-dire ce fromage fabriqué à Luray, mais qui n'était d'ailleurs pas fabriqué qu'à Luray. Il y avait aussi une feuille qu'on appelait la feuille de Dreux, qui était fabriquée d'ailleurs à Marsosseux.
J'étais partie sur 3 fromages, la feuille de Dreux, la feuille de Luray et la feuille de Marsosseux.
Et la feuille de Marsosseux, voilà. Mais en fin de compte, c'était toujours le même type de fromage, c'est-à-dire sorte de, on va dire, de fromage lait de vache, 30%, à l'origine c'était ça, et que l'on protégeait par une feuille de châtaignier que l'on mettait en place sur le fromage. Voilà pourquoi le fromage à la feuille, qui s'est transformé au bout d'un certain nombre de décennies entre une feuille et ce papier.
Ça n'a plus rien à voir.
Plus rien à voir du tout.
Et en plus, ça a dû te toucher au cœur parce que tu as travaillé dans la fromagerie.
Tout à fait. Quand j'étais étudiant, c'est il y a bien, bien longtemps.
Mais dis-moi, avec des horaires tout à fait extraordinaires, parce que là, je lisais 5h, 13h. Ça voilà. Fait 8 heures par jour, ça,
voilà.
Dis-moi.
Mais ce n'était pas de l'exploitation. C'était beaucoup avec beaucoup de plaisir. Parce que quand j'étais étudiant, effectivement, 5h, 13h, ça laissait encore toute la journée, tout l'après-midi.
Et toute la soirée pour s'amuser.
Pour faire beaucoup de choses.
Est-ce qu'on vous employait pour aller chercher justement les feuilles de châtaignier dans la forêt de Dreux ?
Non, parce qu'elles étaient en général ramassées à l'automne. Elles étaient ramassées, effectivement, elles étaient ramassées à l'automne en forêt. Et elles étaient mises dans des séchoirs, enfin quand je dis des séchoirs, pas des séchoirs électriques, etc., mais tout simplement à travers les courants d'air, dans les greniers.
Comme on faisait sécher les pommes sur des clayettes.
Exactement, voilà, de la même manière, et ensuite elles étaient utilisées. On utilisait les études, enfin à l'époque quand je travaillais en tant qu'étudiant, non, parce que le moment où on ramassait les feuilles, on était en études. Voilà, c'était la période de reprise des cours septembre-octobre.
Ça a dû te permettre de faire des études de botanique aussi pendant...
Non, pas tout à fait.
Puis il y a les champignons à cette époque-là.
Exactement.
C'est merveilleux. Alors donc, il ne reste plus du tout de fromage, 30% de matière grasse en feuilles de
Dreux,
de mars osseux.
C'est fini d'ailleurs, aussi bien Dreux, aussi bien mars osseux, aussi bien Luré. Toute cette production artisanale a disparu. Elle a disparu parce que même si l'Europe a un certain nombre de vertus et d'avantages, l'Europe est passée par là avec ses normes, avec ses impératifs, avec ses obligations sanitaires et qui ont mis aussi bien l'artisanat lurésien, l'artisanat de mars osseux ou l'artisanat de Dreux dans des incapacités à pouvoir effectuer des travaux nécessaires pour pouvoir exercer aux normes européennes.
Alors, je vais contacter le prince de Galles pour lui demander de se pencher sur les fromages aux feuilles. C'est absolument insensé qu'on ne puisse plus avoir ce produit. Et tu le sais certainement, le prince Charles est extrêmement investi dans tout ce qui peut soutenir les fromages français.
Eh bien, écoute,
il a une grosse affection pour le Roquefort, par exemple, et il est absolument contre toutes ces normes qui brisent... une lignée de choses extraordinaires, très, avec beaucoup de goût, et que les gens aimaient.
Il y a ce phénomène-là, il y a le produit en lui-même qui n'avait jamais réussi à avoir un label qui l'aurait peut-être protégé de ses décisions européennes. Le label n'a pas été, on va dire, l'appellation d'origine contrôlée n'a jamais été octroyée. Mais derrière cela, il y a aussi le drame humain quelque part. La fromagerie de Luré employait 5 ou 6 personnes, celle de mars osseux un petit peu plus. Et donc, c'était automatiquement des personnes qui se sont retrouvées sans emploi. Il y a ce côté-là aussi qu'il faut voir.
On voit quelquefois la marque dans des magasins de mars osseux, alors des yaourts, de la crème fraîche, des choses comme ça. Il y a toujours une production malgré tout.
Oui, mais qui est faite complètement à l'extérieur. Tu trouveras, Marie-France, encore dans certains magasins. Tu trouveras dans des grands magasins, dans les hypermarchés. Tu trouveras au Halles à Paris, tu en trouveras. À Rungis, tu trouveras encore des fromages à la feuille marqués fromage de Dreux, mais qui sont fabriqués maintenant dans le Cher. On est bien loin de l'origine.
Il faut espérer qu'ils aient toujours les feuilles de châtaignier malgré tout. Alain, c'est très gentil d'être venu nous voir. On refera bien sûr une autre émission. Et j'espère que vous aurez aimé, chers auditeurs, cette émission L'écho de ma commune qui est aidée par le Conseil départemental d'Eure-et-Loire et qui nous permet de recevoir beaucoup de personnes très investies dans notre département. Au revoir, à bientôt. Au revoir Alain, merci.
Au revoir Marie-France.
Said he, I dance for the scribes and the Pharisees. They wouldn't dance, they wouldn't follow me. I danced for the fishermen, James and John. They came with me, so the dance went on. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I lead you all. Wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. I danced on the Sabbath and I cured the lame. The holy people said it was a shame. They whipped, they stripped, they hung me high, left me there on the cross to die. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I lead you all. Wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. With the devil on your back. They buried my body, they thought I was gone. But I am the dance and the dance goes on. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. And I lead you all, wherever you may be. And I lead you all in the dance, said he. They cut me down and they left a high.
life that will never, never die. I live in you if you live in me. I am the Lord of the dance, said he. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all, wherever you may be. And I lead you all in the dance, said he.